De tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Donc on reprend ce soir après quelques semaines de pause due au coronavirus. On ne se voyait pas faire cette émission sans parler de ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc on commencera avec donc des nouvelles de la répression à Gaza. On reviendra aussi sur l'abolitionnisme pénal avec un texte de Gwenola Ricordo. On vous parlera des recommandations de la contrôleur des prisons, d'un appel à témoignage sur les personnes trans incarcérées, de ce qui se passe à la prison des femmes des Baumettes, du procès des militants contre l'enfouissement des déchets à Bure notamment, et on aura énormément d'annonces aussi, énormément, j'exagère un peu, beaucoup d'annonces par rapport à ce qu'on pouvait vous donner en début d'année, puisque avec le déconfinement et avec tout ce qui se passe à Gaza notamment, mais aussi en France, avec la réforme de l'assurance chômage, etc., y a de quoi s'occuper en manifestation, réflexion, et, etc. Donc pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95 et de préférence pendant les pauses musicales. Et on va commencer tout de suite avec un petit morceau de Sarah Vaughan.
Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. And the that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebird, fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Blue birds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can I?
Alors, on va commencer cette émission avec un communiqué de l'Union juive. Ça y est, je ne sais même plus comment.
Pour la paix.
Oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, il faut bien un communiqué qui s'intitule « De Jérusalem à Gaza, en passant par Haïfa, c'est de tout le peuple palestinien qui se révolte. » Depuis des semaines à présent, les partis d'extrême droite ont lancé leur nervis dans ce qu'il faut bien appeler de véritables pogroms aux cris de mort aux Arabes, dans Jérusalem, avec l'accord tacite du gouvernement et la complicité passive ou active de la police. Depuis des semaines, un nouveau cycle d'expulsion dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, à Jérusalem, vient s'ajouter au précédent pour parachever l'épuration ethnique concertée de la vieille ville. Ces expropriations de familles palestiniennes ne relèvent pas d'une simple bataille judiciaire, comme souhaitent le faire croire les autorités israéliennes, relayées par les médias occidentaux, dans l'indifférence des États-Unis et de l'Europe. Il s'agit, au contraire, de la normalité sioniste. La Nakba de 1948 et la Naksa de 1967, qui ont abouti à l'exode de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, ne sont pas des accidents de l'histoire, pas plus d'ailleurs que les dépossessions des communautés palestiniennes de Galilée ou bédouines de Negev Nakab. Comme le soulignait le leader de la liste unifiée, Ayman Odeh, il y a quelques années déjà, et avec lui tant d'autres Palestiniens de 1948, la pierre angulaire du sionisme, en pratique, est contenue dans cette phrase simple. Emparez-vous d'autant de terres que possible, avec le moins d'arabes possible dedans. Les pogroms de Jérusalem ne sont pas des échanges violents ou des affrontements entre Israéliens et Palestiniens autour de la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a ici un oppresseur et un opprimé. Et l'oppresseur, le régime israélien, permet à ses hordes fascistes de provoquer des Palestiniens en plein jeûne. La police les aide. Non content d'avoir chassé les fidèles des marches de la porte de Jaffa, le pouvoir répressif les attaque sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Plus de 500 blessés. Nous ne connaissons que trop bien ce cycle de violence. Le régime israélien parvient à imposer son récit. Et ce sont les Palestiniens de Gaza qui paient le prix fort. Déjà une trentaine de morts, dont 10 enfants. Bon, ce communiqué date du 11 mai, évidemment, les chiffres ont augmenté depuis.
On en est à 230-240.
C'est ça. La révolte qui s'étend à toutes les parties de la Palestine fragmentée, déchirée et légitime. Ce qui est illégitime et scandaleux, c'est le silence ou l'inversion radicale des significations et de la vérité. La spoliation et la dépossession de la Palestine, assortie d'un discours cynique et mensonger, nous sont insupportables. La loi du plus fort, l'injustice et l'inégalité érigées en système, nous sont insupportables. Parce que nous refusons la haine, nous soutenons qu'une société juste et respectueuse des droits de tous ses citoyens est possible sur le territoire de la Palestine historique, qu'un monde meilleur est possible. C'est le fondement de notre antisionisme. Face au déchaînement de violence orchestré par un régime israélien en pleine crise politique, porté par un Netanyahou à bout de souffle et prêt à sacrifier les Palestiniens pour assurer sa pérennité au pouvoir, les condamnations timorées, ou pire, les déclarations renvoyant Israéliens et Palestiniens dos à dos, ne suffisent pas. Le droit international doit être appliqué. Les sanctions auxquelles se refuse jusqu'à présent la communauté internationale sont ce qu'attendent les Palestiniens et tous ceux qui dans le monde défendent leurs droits inaliénables et doivent enfin être mis en œuvre. Le boycott, le désinvestissement et les sanctions envers Israël, appelées par la société civile palestinienne, doivent s'imposer partout et largement.
Alors il faut rappeler aussi que Paris est à peu près la seule capitale, je crois même que c'est la seule, qui a interdit les manifestations en solidarité avec les peuples palestiniens et que samedi ou dimanche prochain, ce qui est autorisé, c'est juste une manifestation statique, comme un sitting à Paris. Alors qu'on a vu que dans les capitales du monde entier, de nombreuses personnes ont pu défiler. Quoi. Et là, on en vient à un livre qui vient de paraître, là, en mai 2021. Ce livre s'appelle « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal ». En fait, c'est une compilation de textes classiques de la pensée abolitionniste, dont des textes de Niels Christie, Russ Morris et Luke Hulsman, qui sont traduits pour la première fois en France par Pauline Picot et Lydia Amarouche, et qui est publié aux éditions Grévis. Donc ce texte de Gwenola Ricordo qui introduit les articles part de l'expérience, il part du viscéral, il parle de ce que la prison et la police nous font sensiblement. Pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsque des policiers viennent t'arracher à tes proches, à tes amours, à ta vie. Lorsqu'un juge t'enlève ton fils, ta sœur, ton père ou ton amante, alors tu essaies de serrer contre toi un être cher à travers des grilles. Pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsqu'il te faut être convaincante et même crédible, alors que tu voudrais seulement qu'on t'écoute et qu'on te croie. Lorsqu'ils ne prennent même pas la peine d'essayer de comprendre, lorsque c'est ton histoire, mais qu'on te reproche d'en faire toute une histoire. Pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsqu'ils mettent ton nom ou celui d'un autre sur un dossier et que ton histoire n'est plus vraiment la tienne ou la nôtre. Lorsqu'ils font de toi ou de nous leur affaire, une petite affaire de rien du tout, ou une belle affaire. Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsque, entre les murs de leurs tribunaux, ils dissèquent nos existences à coups de scalpel. Lorsque leurs procureurs nous parlent en homme et que leurs juges prennent à témoin la société comme si celle-ci n'avait pas déjà prononcé sa sentence. Lorsque c'est la plus grande des solitudes sur le banc des accusés et la grande ronde de ceux réunis là pour nous passer à la moulinette. Pour le petit bout de soi qui s'en va pendant qu'il défile à la barre. Ceux qu'on a conviés au festin de nos entrailles, ceux qui sont payés pour nous examiner sous toutes les coutures et pour donner leur avis sur notre âme et sur nos faits. Pendant que les témoins de moralité font ce qu'ils peuvent et que le public chuchote et se repaît du spectacle. Pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsque rien ne sera plus comme avant et qu'on sait que cela recommencera de nouveau, que cela est en train d'arriver, à l'instant précis où on y pense, que rien ne sera plus comme avant, parce qu'il est des balises de détresse que personne ne veut voir, mais qu'il restera la colère comme bouée de sauvetage et la peur avec laquelle il faudra apprendre à vivre. Pour le petit bout de soi qui s'en est allé, malgré la tendresse qui nous relie en retour à la sœur, à l'ami, à l'inconnu, à elles toutes qui savent la colère et la peur, la tendresse qui nous relie aussi à toutes celles et ceux qui connaissent le tranchant de leur scalpel. Parce qu'il y a le souvenir de tous ces petits bouts de soi qui s'en sont allés, ce trop-plein de souvenirs et ces vides à jamais. Les blessures encore ouvertes, la justice jamais vraiment rendue, les promesses faites que c'était pour notre bien. parce que les parloirs, ce n'est pas une vie, parce que les grilles se referment sur les innocents et sur les coupables, parce que les morts des mitards et des quartiers d'isolement, pour nos vies en morceaux, pour nos morceaux de vie dont ils font leur affaire, pour leurs séances de dissection, pour les peines qu'ils prononcent sans remords. Parce que les flics blessent, mutilent et tuent, parce que les procureurs n'ont jamais à la bouche que le droit, et les juges qu'un code pénal à la place du cœur. Parce qu'on ne demande aux jurés rien de plus que leur intime conviction, quand on nous demande rien de moins que d'étaler nos tripes devant eux. Parce que les matons nous regardent nous aimer et nous déchirer au parloir, et qu'ensuite il y a toujours quelques travailleurs sociaux et des bénévoles pour venir, la main sur le cœur, se rassasier de l'histoire de nos malheurs. Parce que c'est la justice des hommes, des bons pères de famille, de ceux qui sont dans leurs droits, et qui, s'ils n'ont pas toujours déjà tous les droits, nous disent quand même, sans frémir, leur vérité judiciaire. Parce que la justice de ceux pour qui les lois ont été écrites, de ceux que la police protège et qui savent que la prison est faite pour les autres. Parce qu'ils se servent de nos blessures, de nos corps, comme d'un étendard, là-bas pour leur guerre et leur mission de civilisation. Ici, pour désigner et punir leurs monstres, leurs pauvres, leurs arabes, leurs noirs. Parce qu'ils nous reprochaient de parler et qu'aujourd'hui ils nous reprochent encore de nous taire ou de ne pas parler comme il faudrait. Puisque, lorsqu'ils rendent justice, c'est un dossier qu'ils referment. C'est comme le mot « fin » prononcé après une histoire un peu triste. Un œil pour œil, sa peine pour ma peine. Parce que leur justice, c'est leur lot de consolation pour notre impuissance organisée. Parce que notre camp, c'est celui des victimes. De celles qui parlent et de celles qui ne disent rien. Parce que la prison, ça peut arriver à n'importe qui, mais que c'est toujours les mêmes qui y vont. Ceux qui hier ont envoyé au bagne, et pour qui on élevait des potences, et pour qui aujourd'hui on bâtit des prisons, des centres de détention et des camps. Parce qu'on nous demande de croire encore à la justice de notre pays, et peut-être même de lui être reconnaissante. Parce qu'ils se croient un supplément d'âme à chaque fois qu'ils nous ont fait la charité ou qu'ils parlent de réinsertion. Comme si dans leur société, on pouvait s'arranger pour qu'il y ait de la place au soleil pour tout le monde. Parce que notre camp, c'est celui du peuple qui croupit à l'ombre, en attendant les lundis au soleil. C'est le camp de ceux et celles qui grandissent et vivent à l'ombre des murs. Puisque leur soif de pouvoir et d'argent ont fait du monde notre cauchemar, et qu'ils n'aspirent qu'à recouvrir la terre des prisons, parce que nous ne voulons pas de leur lot de consolation, parce qu'il n'y aura pas d'arrangement, ni avec leur justice, ni avec leur charité, ni avec leurs policiers, leurs juges et leurs matons. Parce que notre camp, c'est celui des empêcheurs de condamner en rond et d'enfermer en paix. C'est celui de ceux et celles qui rêvent un monde sans commissariat, ni tribunaux, ni prison. Prendre le parti de notre camp, c'est ouvrir des brèches dans leurs murs et construire des solidarités avec ceux et celles qui luttent dedans et dehors, et avec ceux et celles qui n'ont parfois plus la force de se battre. Prendre le parti de notre camp, c'est tenir tête à leur chimère d'une police qui nous protégerait et d'une justice qui pourrait être juste. Prendre le parti de notre camp, c'est refuser qu'on punisse au nom de notre émancipation. Parce que ni le racisme, ni le capitalisme, ni le patriarcat n'ont jamais tremblé devant leurs tribunaux et leurs prisons. Prendre le parti de notre camp, c'est faire front avec ceux et celles qui attaquent. Parce que les murs ne tomberont pas tout seuls et qu'il faut souffler sur la braise pour que l'incendie se propage. Prendre le parti de notre camp, c'est s'engager sur le chemin de l'abolition de leurs prisons et de leur justice. Un chemin dont la destination est encore incertaine, parce qu'on ne sait pas encore bien à quoi ressemblera le monde sans police, ni tribunaux, ni prisons qu'il nous reste à construire. Mais c'est un chemin sur lequel on avance à coups de rêve et il nous faut rêver fort pour avancer encore. C'est un chemin que l'on prend avec pour seule boussole que de savoir que nous ne voulons la prison pour personne et avec pour seul bagage nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs. C'est un chemin escarpé, mais on ne met ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont laissé sur le bord du chemin quelques pierres qui témoignent de leur passage et qui nous rappellent qu'on ne va jamais loin si on fait seul le chemin. C'est un chemin escarpé, mais il résonne de ce qu'on y s'y raconte. On y dit nos blessures, nos deuils, nos guérisons, nos bricolages pour vivre, aimer et rire malgré tout. Sur le chemin de l'abolition nous parvient le brouhaha des sarcasmes de ceux qui croient qu'il y en a toujours été ainsi, de ceux qui espèrent qu'il en sera toujours ainsi, car ils ont encore quelque chose à gagner ou à sauver, et de ceux qui nous accusent de naïveté, alors qu'ils trouvent si pratique de faire comme s'il n'y avait toujours que des victimes et que des coupables. Le brouhaha que font aussi ceux qui moquent nos rêves, alors que les leurs sont remplis de prisons et de miradors, de nos gestes épluchés par des caméras de surveillance et de nos chevilles et nos poignets entourés de bracelets électroniques. Sur le chemin de l'abolition, on avance. Remplis par nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs, hantés par le souvenir du froid des grilles, de nos défaites, de nos entrailles hurlantes sous leurs scalpels, et par le sentiment que l'histoire marche parfois contre nous. Habités par le vide laissé par celles et ceux qui ont laissé continuer seul le chemin, mais habités aussi par la chaleur de nos rêves et les brûlures laissées par l'espérance. Car un soir viendra où on dansera sur les cendres de leurs commissariats et de leurs tribunaux et de leurs prisons. Et puis arrivera enfin le jour où on visitera les ruines de leur monde en frissonnant tristement à la pensée des temps anciens, au milieu des tournesols qui auront poussé dans les anciennes cours de promenade, dans la poussière qui aura recouvert leurs registres, leurs menottes et leurs clés. On honorera ceux et celles qui ont souffert entre les murs de leur prison et le courage de ceux et celles qui les ont fait tomber. On s'y recueillera et on se souviendra de nos malheurs et de nos larmes, mais aussi de nos bonheurs volés à tous les enfermeurs. Gwenola Ricordo, donc, qui est professeure de criminologie à l'Université de Californie et qui travaille justement sur l'abolitionnisme pénal et la prison.
Alors, on va maintenant vous parler d'une procédure d'urgence qui a été lancée par la contrôleure générale des prisons, donc comme l'y autorise la loi, hein, puisqu'elle permet donc au contrôleur général des lieux de privation de liberté, en cas de constatation d'une violation grave des droits fondamentaux des personnes enfermées, de saisir sans délai les autorités compétentes de ces observations. Et en leur demandant d'y répondre, hein, elles ne se contentent pas de faire des observations. Bah là, il s'agit du ministère de la Justice, de suite de la Solidarité et de la Santé, ainsi que du ministère de l'Intérieur. Donc ça fait suite à une visite qui a été réalisée par 6 contrôleurs au centre de détention de Bédenac en Charente-Maritime du 29 mars au 2 avril 2021. Et cette visite a donné lieu au constat d'atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes incarcérées au sein de l'unité de soutien et d'autonomie, ou bâtiment G, initialement conçu pour accueillir des personnes détenues vieillissantes nécessitant d'être hébergées en cellule pour personnes à mobilité réduite. Les contrôleurs ont rencontré donc dans cet établissement de nombreuses personnes détenues dans l'unité de soutien et d'autonomie qui est constituée de 20 cellules individuelles et ont observé leurs conditions de détention. 15 personnes nécessitent et disposent d'un lit médicalisé, 8 personnes se déplacent en fauteuil roulant, 3 se déplacent avec une canne, ou un déambulateur, et une personne aveugle ne peut se déplacer qu'avec une aide humaine. 4 de ces personnes souffrent d'obésité, 3 personnes souffrent de démence à différents stades, et 4 autres ont des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. 3 personnes souffrent d'incontinence et ne bénéficient d'une tierce personne pour la toilette que 2 à 3 fois par semaine. Et malgré les alertes régulières des soignants depuis 4 ans, les autorités sanitaires n'ont pris aucune mesure d'adaptation de l'offre de soins. Au regard des situations individuelles donc observées par les contrôleurs, il y a 6 personnes qui bénéficient normalement d'une aide 2 fois par semaine pour faire le ménage et la toilette, mais qui auraient besoin d'une assistance quotidienne. Les personnes incarcérées dans cette unité n'ont pas accès à des aides-soignants en nombre suffisant pour assurer l'aide au ménage, à la toilette et à la gestion de l'incontinence. De nombreux patients nécessitent de la kinésithérapie et de l'ergothérapie à minima 3 fois par semaine pour l'entretien de leurs fonctions motrices, et elles n'en bénéficient qu'une fois par semaine au mieux, et parfois n'en bénéficient tout simplement pas. Donc dans ce cas, la contrôleuse demande que soit mis un terme sans délai aux conditions indignes de détention des personnes souffrant de pathologies et handicaps incompatibles avec les prises en charge proposées. Elle précise que leur droit d'accès aux soins doit être respecté et que l'assistance personnelle qu'elle nécessite doit être immédiatement mise en place. En plus, le bâtiment dans lequel elles sont enfermées est certes récent et permet l'accès des personnes à mobilité réduite aux espaces collectifs, mais a vu sa fonction transformée et n'est plus adapté au public accueilli, enfin aux prisonniers accueillis, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes qui sont détenues. Les cellules ne sont pas adaptées à des personnes qui nécessitent des chambres qui répondent à des normes de sécurité exigées dans les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes, donc les EHPAD, et les hôpitaux de long séjour. Le nombre de surveillants qui est affecté aux escortes n'est pas adapté du tout aux besoins d'extraction médicale forcément élevées pour ce public. Hein. Elles doivent du coup sortir de la prison assez régulièrement pour aller voir des professionnels de santé. Et donc les surveillants ne sont pas présents en permanence en détention et aucun n'est formé sur ce type de prise en charge. Et malgré l'impossibilité qui lui était signalée de prendre en charge ces situations hein, par le personnel, la direction de l'administration pénitentiaire a adressé à l'établissement des personnes de moins en moins autonomes depuis la France entière. Au moment du contrôle, 3 détenus nécessitant des cellules spécifiques étaient inscrits sur liste d'attente en provenance de Mont-de-Marsan et du centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville. Donc déjà, la contrôleur réclame en plus la suspension de toute nouvelle incarcération donc au centre de détention de Bednac de personnes dont l'état de santé n'est pas compatible avec les prises en charge proposées. En juin 2020, le médecin de l'unité sanitaire a établi 8 certificats médicaux préconisant une suspension de peine. Sur les 8 personnes concernées, une seule a bénéficié de cette suspension en mars 2021. Une autre est sortie en libération conditionnelle médicale. Une troisième personne a vu sa demande de libération conditionnelle et suspension médicale rejetée par le tribunal d'application des peines, alors qu'une place en EHPAD avait été trouvée pour elle. Et les 5 autres demandes étaient toujours en cours d'examen. Contrairement à ce qui était prévu lors de l'inauguration du bâtiment donc en 2013, le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas développé de partenariat lui permettant de proposer une prise en charge extra-carcérale des personnes âgées ou handicapées, que ce soit en termes d'hébergement ou de suivi en soins ambulatoires. Les magistrats sont confrontés à une pénurie de médecins experts, bon ça on en avait déjà parlé, surtout les psychiatres, et à des délais d'expertise très longs, trop longs, ce qui fait que ces personnes restent incarcérées. Les notions de dangerosité et de risque de récidive qui sont souvent mises en avant par les experts et régulièrement retenues par les juges comme motif de rejet ne sont pas toujours analysées au regard de l'état physique de la personne détenue. Là, on parle de personnes qui sont quand même plus franchement autonomes. Donc la contrôleure a demandé à ce que toutes les possibilités judiciaires d'adaptation de la peine aux situations individuelles soient mobilisées et que au moins ces personnes soient assistées physiquement aux audiences les concernant. Bon, elle conclut en gros que l'ensemble de ces dysfonctionnements entraîne le maintien au sein de cette unité de personnes dont l'état de santé est pour certaines incompatible avec l'incarcération et en tout cas dans des conditions attentatoires à la dignité.
Je trouve que ce texte fait bien écho au texte précédent hein,
oui.
Sur l'abolition de la prison. Parce que, mais il me semblait quand même qu'il y a certains qui sont sortis pour cause médicale, genre Balkany ou autre, qui ne restent pas longtemps en prison. Hein.
Oui, et puis ils n'ont pas l'air non plus de comment d'être dans un état physique pitoyable, on va dire.
Par contre, je trouve intéressant aussi le lien entre prison et EHPAD, mais enfin, on en reparlera. Une pause.
Soon.
poursuit avec un appel à témoignage à destination des personnes trans qui auraient vécu la prison ou la garde à vue. Donc c'est un petit groupe de personnes queer, blanches, cis et trans. Alors, pour explication, cisgenre, c'est une personne qui aurait été désignée femme à la naissance et qui se vivrait comme femme. Donc voilà, et trans, ce serait du coup quelqu'un qui ne se reconnaît pas du coup dans le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Donc voilà, c'est un petit groupe de personnes, queer, blanche, cis et trans, donc à majorité de personnes trans masculines, qui se retrouvent depuis quelques semaines pour réfléchir autour du lien entre personnes trans et prison. Donc je vous lis un petit passage de leur appel à témoignage pour expliquer un peu les motivations. Donc notre envie et motivation à parler des personnes trans en prison part de plusieurs endroits. D'abord, on a remarqué que les vécus spécifiques des personnes trans emprisonnées sont souvent invisibilisés, que ce soit dans la société mainstream, dans les milieux politisés ou au sein des luttes anticarcérales. En fait, on a trouvé quelques récits de personnes trans, par exemple aux États-Unis, mais peu ou pas en France et ou en français. On est un peu saoulé que les brochures, réunions, temps informés des milieux militants mettent en avant et héroïsent les mecs cis, hétéros, blancs, prisonniers et ne laissent la place qu'à leurs expériences ou à la limite celles des meufs cis. Les réalités des personnes trans avec la répression et la prison sont très peu prises en compte, notamment dans les façons de s'organiser, dans les actions, les manifs, les moments où on se met en danger et leurs potentielles conséquences. On aimerait aussi révéler la prison dans son ensemble, différents types d'enfermement, comment ça se passe avant, pendant et aussi après la sortie de prison et leurs rapports intérieurs-extérieurs. Donc c'est pour ça que ce groupe de personnes s'est dit qu'ils allaient faire une récolte de témoignages pour faire entendre en gros les voix des personnes concernées. Et donc évidemment si vous avez vécu aussi un enfermement en CRA, en centre de rétention administrative, aussi vous êtes concerné, hein, si vous voulez raconter votre expérience. Donc la forme du témoignage, ça peut être court, ça peut être long, ça peut être un écrit, un dessin, une photo, en français, en anglais, au choix, quoi, hein, c'est très ouvert. Et du coup, ce groupe de personnes souhaiterait utiliser ces témoignages de deux manières différentes, dont d'abord les imprimer pour les afficher afin que ce soit lisible et que ça serve de support lors d'une après-midi autour de la thématique personnes trans en prison qui aura lieu à Toulouse le 5 juin. Et puis à terme, ils voudraient sortir une brochure avec tous les témoignages vers le mois de septembre. Et donc, si vous avez le temps avant le 1er juin, parce que c'est quand même bientôt, faut leur envoyer donc un témoignage. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, je dis pas tout à fait n'importe quoi. C'est cool d'envoyer avant le 1er juin, mais ça peut aller jusqu'au 1er septembre 2021. Ils sont très très ouverts. Donc à l'adresse donc mail transversaire tous les murs. Alors je vais les plier parce que c'est un peu compliqué comme adresse. C'est transversertoushertmurs@riseup.net.
C'est transverser les murs, c'est ça?
C'est ça.
Transverser les murs, mais...
Mais quand tu dis tout attaché, c'est un peu compliqué.
Oui, ouais. Surtout qu'il y a un T, tu dis, c'est pas verser, transverser, c'est bizarre.
Oui, c'est ça. Ah. Bon. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'adresse et sinon vous pouvez surtout nous appeler, hein, nous écrire, on vous la transmettra sans problème.
En cherchant, on devrait trouver, oui. Et là, il s'agit de la prison pour femmes des Baumettes à Marseille. Et ça continue donc dans ces lieux de privation de liberté. Il n'y en a jamais assez, on en rajoute. En pleine crise sanitaire. De nouvelles fenêtres ont été posées le week-end du 15 mai 2021 aux cellules des bâtiments du centre de détention du quartier des femmes de Baumettes. Mais pas pour le confort des prisonnières. Ces fenêtres sont anti-bruit, mais n'ont pas été installées pour protéger les femmes enfermées du cri de l'aigle de Bonelli, plutôt pour protéger le voisinage de la prison. Réclamée par les riverains et riveraines, et déjà installée dans la maison d'arrêt pour femmes il y a quelques mois, ces blocs, inamovibles, empêchent l'air de circuler dans les cellules. L'aération est pourtant vitale pour empêcher le coronavirus de se propager, pour que les odeurs de club, de cuisine ou des toilettes n'envahissent pas toute la pièce, et surtout pour ne pas s'asphyxier et souffrir de migraines. Ces fenêtres, entièrement vitrées, empêchent aussi les yo-yos et les discussions entre cellules. Ce manque d'aération est d'autant plus insupportable que, au moins la journée du jeudi 13 mai, les prisonnières ont été toutes confinées dans leurs cellules au prétexte de lutter contre le Covid, alors que la chaleur commence à monter. Les parloirs ont été annulés au dernier moment sans que les proches n'aient été prévenus. Même les promenades annulées. L'établissement a été entièrement bloqué et toutes les activités suspendues. Les prisonnières ont toutes eu à subir un test PCR. Un test de dépistage du coronavirus. À l'approche des chaleurs de l'été, des prisonnières du centre de détention ont donc décidé de manifester leur mécontentement contre ces fenêtres, dont l'installation ce week-end dernier est vécue comme une provocation supplémentaire de l'administration pénitentiaire après les événements donc du jeudi 13 mai. Au moins une dizaine de cellules, ces fenêtres inutiles et dangereuses pour la santé, ont donc été cassées par les prisonnières dès leur installation. Ces dernières risquent une répression de l'administration pénitentiaire et une condamnation à rembourser les dégâts. D'autre part, les prisonnières se plaignent que la puissance des brouilleurs de téléphone ait été augmentée ces derniers jours. Il s'agit là encore d'une mesure répressive. Les téléphones ne captent plus ou coupent très régulièrement, ce qui empêche les prisonnières de tenir informées les proches dehors qui s'inquiètent pour elles. Donc c'est un communiqué de l'envolée. On s'aperçoit qu'on n'en finit pas d'inventer encore à chaque fois des systèmes de répression.
Et maintenant on va partir à Bure, donc, où un procès va commencer le 1er juin donc, contre les militants qui se battent contre l'enfouissement des déchets à Bure. Et donc, il y a un appel à se déplacer jusque là-bas. Il y aura des actions, de la mobilisation tout au long du procès.
Alors, je vous lis un. Que Bure, c'est dans la Marne, en fait, dans l'Est, là, par là.
Oui, c'est pas tout près de chez nous.
Non.
Et donc, je vous lis le petit communiqué qui appelle à participer à ce procès. Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs, des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie, un dossier de 15 000 pages, des mètres cubes de matériel saisis, un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme, l'heure de la mascarade judiciaire a sonné. Les 1er, 2 et 3 juin, au tribunal de Bar-le-Duc, se tiendra le procès des 7 malfaiteurs de la lutte à Bure. Des amis luttant contre le projet de méga-poubelle atomique Cigéo ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler pendant de longues années. Cette procédure a constitué une peine et a tenté de paralyser tout un mouvement de résistance. Ce qu'on muselle chez ces personnes, c'est leur engagement antinucléaire, leur conviction et leur liberté d'expression. Nous sommes toutes des malfaiteurs. Il n'y a toujours aucun déchet nucléaire à Bure. Pour autant, nous sommes à un moment charnière car Cigéo pourrait bien être reconnu d'utilité publique. Expropriation, défrichement du bois Le Juc et premier chantier pourraient voir le jour d'ici 2022. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce procès des malfaiteurs sera surtout le procès de Cigéo et du nucléaire. Il est temps de dénoncer l'association de malfaiteurs comme outil de criminalisation de nos luttes. Cet outil juridique, issu des lois dites scélérates et de l'antiterrorisme, est utilisé pour tenter de paralyser toutes les formes d'auto-organisation partout en France et ailleurs, contre des gilets jaunes, des personnes des quartiers populaires, des antifascistes, des écologistes, etc. Leur justice en carton-pâte ne nous fait pas peur. Le 1er, 2 et 3 juin, réunissons-nous à Bar-le-Duc devant le tribunal. Soyons nombreux et nombreuses à affirmer notre opposition au nucléaire, à soutenir nos amis, à célébrer toutes nos luttes et à dénoncer cette instruction. Donc il y aura un rendez-vous tous les jours donc devant le tribunal à partir de 9h du matin sur la place Saint-Pierre à Bar-le-Duc, si ça vous dit de faire le déplacement, et un grand cortège festif le mardi 1er juin à 14h. Voilà pour ce qui est de Bure.
Et pour parler d'acharnement judiciaire, eh bien, c'est le procès qui s'est tenu aujourd'hui de Frédéric Vuillaume. C'est un manifestant qui est victime d'un acharnement judiciaire. Il est syndicaliste de longue date et il a participé, il habite Besançon, il est agent d'entretien dans un lycée depuis plus de 20 ans et donc il est syndiqué et il n'a jamais eu affaire à la police ni à la justice. Sa participation au mouvement donc des Gilets jaunes eh bien, a entraîné de nombreuses gardes à vue. Alors chronologie d'un acharnement pendant 2 ans et 7 gardes à vue. Le 17 novembre 2018, Frédéric Vuillaume participe au premier rassemblement du mouvement des Gilets jaunes sur un rond-point à Besançon, tous les samedis. À partir de cette date, il porte un gilet jaune et le mégaphone à la main. Le 27 décembre 2018, la police l'arrête lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Il est gardé 8 heures en garde à vue pour organisation d'une manifestation non déclarée, participation à un rassemblement susceptible de troubler l'ordre public, etc. Il est remis en liberté sans inculpation. Février 2019, il est de nouveau convoqué au commissariat. La police l'informe qu'il fait l'objet d'une enquête pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Entrave à la circulation et organisation d'une manifestation non déclarée encore. Il sera détenu plus de 5 heures avant d'être libéré, toujours sans inculpation. Alors là, c'est le lendemain carrément, le 28 février, à 6h30 du matin, la police perquisitionne son domicile, saisit son téléphone, son ordinateur portable et celui de son épouse. Excusez-moi. Et là, il va rester 12 heures en garde à vue, pendant lesquelles les policiers l'interrogent sur ses publications sur Facebook. C'est beau les réseaux sociaux. Hein. Et donc ils affirment qu'il serait un des organisateurs des manifestations non déclarées. Une fois encore, aucune poursuite n'est engagée à l'issue de cette garde à vue. Le 13 mars 2019, tous les mois, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, déplacement à Besançon. À cette occasion, les Gilets jaunes manifestent pour dénoncer notamment les violences policières, puisqu'on vous rappelle quand même qu'il y a eu quand même pas mal de gens mutilés lors des manifs des Gilets jaunes. À ce titre, donc, Frédéric Vuillaume scande à haute voix « Castaner assassin ». Un slogan qui lui vaut 24 heures de garde à vue, une condamnation pour outrage. Après 2 ans de procédure judiciaire, ce sera le 23 mars 2021 que la Cour de cassation annule sa condamnation. Mais on revient en 2019, au mois de décembre, il est arrêté lors d'une manifestation contre la réforme du système des retraites. Il va passer 24 heures de garde à vue pour entrave à la circulation. Le 9 janvier 2020, il est à nouveau placé en garde à vue parce qu'il a participé à 2 actions visant à ralentir le trafic routier pour protester contre la réforme du système des retraites. Je rappelle qu'il est syndicaliste et engagé. Il passe 24 heures en garde à vue pour entrave à la circulation. Et là, des poursuites sont engagées. Et les 2 affaires du 17 décembre et du 9 janvier sont regroupées puisque ça c'est des entraves à la circulation. Et on se retrouve au mois de juin 2020, la décision des 2 affaires tombe, Frédéric Vuillaume est relaxé. Le 5 décembre, donc ça serait fini, puisque vous avez vu dans la liste, il était sans condamnation et relaxé. Le 5 décembre 2020, il participe à une manifestation contre la proposition de la loi sécurité globale, dont on a parlé ici à ce micro et dont on reparlera encore. Il est arrêté, placé en garde à vue 44 heures. Il est poursuivi pour délit d'attroupement et son procès donc est prévu pour aujourd'hui, le 20 mai. Il risque 1 an de prison, 15 000 euros d'amende, 2 ans de harcèlement et voilà qu'il passe 44 heures de garde à vue. Il faut dire qu'il a toujours manifesté de façon pacifique. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de condamnation ou en tout cas de plainte pour violence contre lui. Mais les violences cachées, elles sont réelles. Ce père de famille n'a jamais eu affaire à la police. Ses interpellations et procès à répétition ne sont pas anodins. Passer des heures en détention laisse des traces. Attendre des procès est source de stress. Cet acharnement est une forme de violence qui peut avoir des effets dévastateurs. Des violences qu'on ne voit pas, mais qui sont bien réelles. En 2 ans, il a donc passé plus de 140 heures en garde à vue. Aujourd'hui, donc en France, manifester, revendiquer devient un délit. Et, dit-il, je suis un exemple bien vivant de cela. C'est aussi la criminalisation des milliers de manifestants. Et cette criminalisation, eh bien, c'est pour simplement les autorités l'utilisent avec des lois un peu vagues, mais au contraire, contraire au droit international. Par exemple, le délit d'attroupement ou de malfaiteur, comme on en a parlé, qui permet de dissuader de nombreuses personnes d'aller manifester. Les autorités françaises, donc, traitent les manifestants comme des délinquants. Et puis, heureusement, bon dénouement, ce 20 mai 2021, ce matin, Frédéric Vuillaume, qui a comparu devant le tribunal de Dijon, a été relaxé. Il y avait 100 de personnes qui s'étaient regroupées en soutien. Il a été relaxé, mais vu l'historique, on se demande s'il ne va pas encore se faire arrêter à la prochaine manif. Surtout qu'il y a beaucoup d'occasions de descendre dans la rue et on va vous en parler. Avec une petite pause avant.
Raven in wire, since first I met you, I can't forget you, Cherokee sweetheart, child of the prairie, your love keeps calling, my heart enthralling, you Cherokee.
À moi. Excusez-moi. On démarre les annonces. Là, c'est un peu de la pub. En fait, on vous conseille d'aller sur Internet voir Fermer les mitards, Fermer F-E-R. C'est le numéro 0 qui nous donne cette information. Numéro 0, c'est des actualités des mémoires de lutte à Saint-Étienne et ailleurs. Et il s'agit de parler du mitard, le mitard en prison, qui est officiellement quartier disciplinaire. C'est une cellule cachot pour les prisonniers et prisonnières punis. Pour tout et n'importe quoi. Le mitard est un lieu pour isoler et briser des personnes détenues. Loin de tout regard, loin de tout soutien, trop de gens meurent au quartier disciplinaire et trop de morts sont suspectes. De l'intérieur et de l'extérieur des prisons, de nombreuses voix s'élèvent depuis longtemps pour s'opposer au mitard. La fermeture des quartiers d'isolement et quartiers disciplinaires est une revendication fréquente des luttes liées en prison. Donc sur le blog Fermer les mitards, on peut trouver chaque semaine une nouvelle vidéo en soutien à la revendication de fermeture des mitards. Alors vous pouvez aussi écrire à Fermer les mitards, mitards, je rappelle, mitards, @risup.net. Sinon, vous tapez Fermer les mitards et vous pourrez visualiser ces vidéos. Il vous propose même aussi de participer si vous avez aussi des témoignages à transmettre.
Alors, on va enchaîner avec les manifs de samedi, donc. À Toulouse, on ne va pas s'ennuyer ce samedi 22 mai. Donc, pour commencer, à 10h30 au métro François Verdier, il y a une manifestation pour la Palestine qui est à l'appel de notamment du collectif Palestine Vaincra, du Samidoun Network et de la campagne BDS France Toulouse. Il y a aussi d'autres associations toulousaines et des partis toulousains qui appellent donc à cette grande manifestation à 10h30 à François Verdier. Et a priori, il y en a une autre en soutien au peuple palestinien, une autre manifestation qui est appelée à 13h. À 13h à Jean Jaurès. Bon, là, j'avoue qu'on n'a pas trop compris qui appelait, mais bon, il y a deux manifestations, donc pour la Palestine samedi.
Les rues de Toulouse seront animées et on y verra le drapeau palestinien depuis 10h le matin jusqu'à l'après-midi. Donc.
C'est ça. Et on peut enchaîner, donc toujours le samedi 22 mai à 14h, avec la manifestation contre la réforme de l'assurance chômage. Donc là, le rendez-vous, c'est Square Charles de Gaulle. Donc c'est à l'appel des occupants du Théâtre de la Cité. Donc, et c'est adressé à toutes les organisations du mouvement social toulousain. Hein, donc tout le monde est appelé à venir manifester contre cette réforme de l'assurance chômage, donc qui va mettre à mal des personnes qui sont déjà dans une situation assez dramatique depuis le début du coronavirus. Hein. Et bon, on a entendu beaucoup parler des professionnels de la culture, mais il y a aussi tous les professionnels du tourisme, plein de personnes qui n'ont pas pu travailler et qui vont se retrouver sans droit à l'assurance chômage, oui, quand c'est pas déjà le cas. Mais...
Oui, c'est des saisonniers ou c'est des temporaires et ils n'ont pas d'emploi régulier. Quoi. Mmh. Parce que ça fait partie des contrats courts, des nouvelles aussi réglementations du travail qui permet qu'on peut embaucher quelqu'un même pour une heure. Hein.
Et donc dans cette situation économique... Et donc, dramatique, le gouvernement ne trouve pas autre chose que de faire une réforme de l'assurance chômage qui est évidemment pas au bénéfice des chômeurs, hein, ça se saurait. Donc voilà.
Qui veulent l'appliquer à partir de juillet. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreuses manifestations.
C'est ça.
Eh bien, ce samedi 22, puisque vous êtes inoccupé, puisque de toutes ces manifs, je vous propose encore un autre rendez-vous. Alors là, c'est un après-midi contre l'enfermement psychiatrique. On a envie de faire exister un moment sur l'enfermement psy, parce que ça arrive trop souvent, même dans les espaces de lutte contre les prisons, parce que ça nous semble important de partager des informations sur les différentes formes de contrôle que peuvent prendre la psy, parce qu'on est contre la tôle, contre le système de punition, contre l'autorité, contre les normes de ce monde, contre sa rationalité, ses rythmes, son exigence de performance et de productivité, contre l'exploitation, contre les lois, contre ces institutions qui veulent nous écraser de plein de façons différentes. Et parce qu'on n'a pas besoin de soignants ni d'experts, mais de soutien, d'entraide, d'échange autour de nos rapports à la santé mentale. Parce qu'on a envie de réfléchir ensemble à comment on peut lutter, de dedans comme de dehors, contre ces enfermements, parce qu'on aimerait échanger avec des personnes sur tout ça. Donc ça se passe samedi 22 mai 2021, de 13h à 20h, au 45 avenue de Fronton. 13h, c'est l'accueil. Ensuite, il y a un partage d'infos autour de l'enfermement. À 14h30, des discussions en petits groupes. 14h30, 17h, même 18h30. Donc de 14h30 à 18h, c'est des discussions de petits groupes avec certaines thématiques, donc comment ça se passe quand on est hospitalisé sous contrainte, les luttes contre la psychiatrie, le validisme dans les espaces d'organisation et collectifs, c'est-à-dire validisme, c'est la priorité ou le privilège des gens valides qui ne s'intéressent pas forcément aux autres, et puis les croisements entre psychiatrie et les autres oppressions et la parallèle entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Donc samedi 22, de 13h à 20h, au 45 avenue de Fronton à Toulouse.
Alors, le week-end suivant, il y aura pas mal de choses autour de la prison aussi. Donc, ça commencera le vendredi 28 mai à 18h par une discussion sur l'outil antiterroriste au 45 avenue de Fronton, barrière de Paris. Donc, à partir d'un bref retour sur l'origine du terme et de son déploiement dans la loi et les esprits, on fera quelques hypothèses sur les raisons et les avantages que donne aux États l'outil antiterroriste. On échangera autour de cas concrets afin d'envisager des pistes de réflexion quant aux possibles solidarités lorsque la répression antiterroriste touche les luttes. Donc, le lendemain, le samedi 29 mai, toujours au 45 avenue de Fronton, donc c'est à Barrière de Paris, à 13h, aura lieu une discussion qui s'intitule « Lutter contre la construction de nouvelles prisons ». L'État a prévu de construire un tas de nouvelles prisons, dont une à Toulouse. En revenant sur l'histoire des plans prisons précédents, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit et d'expérience de lutte contre la construction de tôles, on voudrait échanger et élaborer des pistes de réflexion pour nourrir des imaginaires de lutte. À 18h, il y aura la projection d'un montage audio et vidéo sur la répartition genrée du soutien aux prisonniers et prisonnières, donc puisque ce sont majoritairement des femmes qui assurent le soutien aux personnes qui sont en prison, notamment à travers les parloirs, les lettres, les démarches administratives, les mandats, le soutien émotionnel, etc. À 20h, il y aura une bouffe Et les samedis 29 et dimanche 30, il y aura tatouage, piercing, sérigraphie, infokiosque, cantine et bar à prix libre en soutien à Calimero, à la caisse d'autodéfense juridique et à la mutuelle Transpédiguine.
Ça, c'est les 29, 30, etc. Et c'est 45
avenue de Fronton. 45 avenue de Fronton, donc métro Barrière de Paris.
Et ben, ce samedi 29 mai encore. Là, ça sera à 14h, place du Capitole. Et c'est une manif pour le droit au logement, des logements sociaux, la baisse des loyers contre les expulsions et les remises à la rue. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la crise a appauvri des gens, mais elle n'a pas fait que ça. Tout au long de la crise, les milliardaires et les milieux de l'immobilier, eux, ont continué de s'enrichir. Et le gouvernement s'est encore attaqué aux droits des précaires, des chômeurs, des migrants, etc. Donc, il y a de quoi exprimer sa colère. Samedi 29 mai à 14h, place du Capitole, toute dans la rue, fin de la trêve hivernale. Et donc, manifestation non aux expulsions, aux remises à la rue et aux logements chers. Et on arrive à Lyon.
On arrive à notre dernière annonce, donc c'est pour annoncer la première journée nationale contre les crimes maquillés en suicide et les violences pénitentiaires, donc c'est qui demande aussi l'abolition donc du fameux MINTAR, le quartier disciplinaire. Et du coup, il y a effectivement une journée, un rassemblement qui est prévu à Lyon à 14h, place Bellecour, avec information, discussion, prise de parole, etc. Il y a aussi quelque chose, il y a aussi une manif contre les violences carcérales organisée à Nantes. À Perpignan, il y aura une causerie populaire dans un quartier sur le thème mourir en prison à petit feu ou de mort violente. Et il y aura aussi des initiatives à Bordeaux, Béziers, Paris. Donc c'est quand même assez important.
C'est la date,
que c'est le 30 mai. Et c'est quand même, la première journée nationale contre les crimes maquillés en suicide et les violences pénitentiaires. C'est important de relayer cette information.
Voilà. Donc, Bruit de tôle se termine. Et on se retrouve dans 15 jours. Vous écoutez Bruit de tôle le jeudi, c'était de 19h à 20h en direct. Et ensuite, l'émission est rediffusée le vendredi de 17h à 18h. Et vous pouvez nous écrire à Canal Sud, Bruit de tôle, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Envoyez un petit mot sur l'adresse mail qui est Bruit de tôle, bruit au pluriel, de tôle, T-O-L-E-S, @no-log. .org. Et voilà, on vous dit bon courage, et puis on espère que les rues vont s'animer autrement que sur les terrasses, mais bien dans la rue, avec toutes ces annonces de manifs qu'on vous a faites. Il y a le choix.
Et nous, on se retrouve du coup dans 15 jours.
Dans 15 jours.
C'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer. Il se compliquait la vie, pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagis par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés. Quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire, partout on peut rire, chanter, partout on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.